RFI, grand reportage.
Thomas Arms.
Grand reportage aujourd'hui au cœur d'un Paris qui se verrait bien de nouveau olympique en 2024, un siècle tout juste après avoir accueilli les JO pour la dernière fois. Ville de naissance du Comité international olympique, la capitale française en est à sa quatrième tentative après 1992, 2008 et 2012, sans doute l'échec le plus douloureux et qui a incité les leaders de cette nouvelle candidature, Bernard Lapasset et Tony Estanguet, à repenser complètement la façon de mener à bien le projet lancé officiellement il y a bientôt 2 ans et pour un budget global de plus de 6 milliards d'euros. Alors d'ici au 13 septembre, plus tard, à Lima, Paris, confronté à la concurrence de Los Angeles, saura si sa persévérance et sa vision des Jeux, faite de lieux de prestige et de développement durable, aura enfin réussi à convaincre le CIO de lui attribuer les Jeux dans 7 ans ou éventuellement en 2028, si l'option d'une double attribution se confirme dans les prochains jours. 2024, Paris se prend au jeu. Un grand reportage signé Christophe Diremzio.
Ici à Paris, nous voulons passionnément les Jeux.
Le moment tant attendu est arrivé.
Des Jeux pour les athlètes.
C'est une équipe.
Des Jeux avec les Parisiens, avec les Français, avec le monde.
C'est un rêve déjà brisé de nombreuses fois, mais que le mouvement sportif français est de nouveau décidé à réaliser. Du 2 au 18 août, puis du 4 au 15 septembre 2024, Paris se verrait bien redevenir le cœur de l'olympisme et du paralympisme. Cette ambition, plus grand monde n'osait l'affirmer il y a encore quelques années, tant la défaite de juillet 2005 dans la course à l'attribution des Jeux 2012 au profit de Londres avait durablement marqué les esprits. Ce n'est que quelques mois avant la grande quinzaine estivale outre-Manche que l'idée de convoiter à nouveau les JO commence à refaire surface dans l'Hexagone. Mais cette fois, l'approche doit être inspirée de la réussite des Britanniques, professionnels et incarnés. Londres avait eu Sébastien Coe, Paris aura Bernard Lapasset et Tony Estanguet. Le premier est alors président de l'IRB, l'instance mondiale du rugby. Le second va quitter Londres à 34 ans sur un troisième sacre olympique en canoë, l'aboutissement d'une carrière sportive inespérée.
J'ai découvert les Jeux à Barcelone en 92. À cette époque-là, j'avais 14 ans. J'imaginais pas qu'un jour je serais un athlète parce que je faisais du sport, mais j'imaginais pas que les Jeux puissent être possibles pour moi. Et puis après, mon frère a gagné, lui, une médaille. Ça a été un déclic. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas moi? Et puis derrière, j'ai enchaîné 4 Olympiades avec 3 médailles d'or. Et ça a marqué ma vie. Et cette chance, ce privilège, j'ai envie que le maximum d'enfants en France puissent vivre cette même émotion.
Cette envie prend réellement forme en 2013. Tony Estanguet vient de mettre un pied dans l'univers olympique en devenant pour de bon membre de la commission des athlètes du CIO. Bernard Lapasset, lui, compte à son actif l'intégration du rugby à 7 aux Jeux de Rio. Deux succès qui incitent les deux hommes à réfléchir à la manière de relancer une stratégie olympique gagnante. Lapasset a le vécu et le relationnel dans les hautes sphères du sport mondial. Estanguet a le palmarès et le profil idéal pour séduire Michael Aloisio, directeur général adjoint de Paris 2024.
Il a l'expérience des Jeux, il est membre du CIO, c'est une nouvelle génération de dirigeants. Accessoirement, il a le même âge que notre nouveau président de la République. Et puis, c'est une personnalité qui fédère. Il a une très forte sensibilité, il sent très bien les choses. Et il a un niveau d'exigence vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres qui nous tire tous vers le haut. Et puis, c'est un exceptionnel compétiteur qui s'organise pour faire en sorte qu'on ramène ces Jeux à Paris. Il a pu s'appuyer aussi en grande partie sur toute l'expertise et l'expérience de Bernard Lapasset qui lui avait proposé de le rejoindre dans ce projet-là. Et c'est vrai que c'est un binôme qui fonctionne extrêmement bien.
Paris 2024 est candidate à l'organisation des Jeux. Portons ensemble le rêve olympique et paralympique. Vous êtes prêts?
3, 2,
1...
Tweeter,
c'est parti.
Wow.
23 juin 2015, journée des Olympiens. Le tout Paris du sport proclame officiellement à la face du monde numérique son envie de rassembler la jeunesse sportive 9 ans plus tard au pays de Pierre de Coubertin. Un projet mûri en 18 mois avec une vision bien précise. Paris 2024 joue à la fois la carte du patrimoine historique et des cadres de prestige pour certaines épreuves, comme la Tour Eiffel pour le beach volley, les Champs-Élysées pour le cyclisme sur route et l'arrivée du marathon, le Grand Palais pour l'escrime et le taekwondo, ou encore Versailles pour l'équitation. Mais il n'oublie pas de se tourner vers l'avenir et de regarder autour des Jeux, Bernard Lapasset.
Il y a, à travers notre candidature,
la volonté d'exprimer le vivre ensemble dans une démarche qui va construire les Jeux de façon différente en 2024. On voudrait donner un signal fort dans lequel le sport prend une dimension encore plus large qu'il n'a aujourd'hui, qui s'adressera simplement aux athlètes, mais qui va s'adresser à une population pour qu'elle fasse davantage de sport et en même temps qu'on intègre cette population dans une manière de vivre qui donne cette expression où le sport c'est la culture, c'est l'éducation, c'est le vivre ensemble, c'est l'environnement, ce sont toutes ces questions qui sont dans nos propositions, lancées vers un héritage qui va donner une dimension internationale très forte.
Mais le cœur de l'opération séduction des membres du CIO reste tout de même la qualité et l'originalité des sites envisagés pour les épreuves, répartis en trois zones, dans Paris intramuros et la proche banlieue. 95% de ces sites existent déjà, certains de façon temporaire, et les porteurs de la candidature ne manquent jamais de rappeler la compacité de l'ensemble. 22 sites seraient accessibles aux athlètes en moins d'une demi-heure du village olympique, l'un des rares équipements encore à construire. Mais c'est bien par là que commence, en ce jour de mai 2017, la journée de visite de quelques-uns de ces sites organisés pour la presse, en parallèle de celle de la commission d'évaluation. Thierry Rey, champion olympique de judo en 1980, joue le rôle de guide.
Merci tout d'abord d'être avec nous. On est ravis de passer cette journée ensemble. On est un groupe, quoi. On est solidaires. Si vous avez eu le programme, évidemment, comme vous avez déjà tout travaillé, vous savez qu'on va en 93.
Et plus précisément dans le quartier Pleyel, sur les bords de Seine. 51 hectares de terrain, dont 35 de zones résidentielles, et la Cité du cinéma, un pôle multifonction propriété du réalisateur Luc Besson, adapté notamment en espace de restauration. Un ensemble pensé par les sportifs associés à l'équipe de candidature, comme Stéphane Diagana, le champion du monde du 400 mètres V en 1997, présent aux Jeux de Barcelone en 1992, rappelle combien l'expérience du village est importante dans la vie d'un Olympien.
Un athlète, c'est quelqu'un qui, hors de la compétition, a envie de profiter, qui vient du bout du monde parfois et qui a envie de découvrir. Et donc, si pour des raisons de confort, on l'isole trop de la ville et du cœur des Jeux, eh bien finalement, il se sent frustré parce qu'il voit quoi, le village, le stade et l'aéroport. Or, il a envie de découvrir, ce sont des gens qui sont ouverts sur le monde, qui ont envie de voyager, qui ont envie de rencontrer. Et donc là, on sera à 20 minutes des Champs-Élysées en transport, avec beaucoup de flexibilité. Et en même temps, comme je le dis, un athlète qui veut vivre la cérémonie, on sait que c'est souvent un crève-cœur pour les athlètes de dire non, là, la cérémonie, ce sera juste à côté. Donc ce sera un choix beaucoup plus facile à prendre et moins impactant sur la performance des athlètes.
Faciliter la vie du futur hôte des lieux, c'est encore plus nécessaire pour les athlètes handisport. Et là encore, tout serait étudié dans les moindres détails, davantage que lors des éditions précédentes. Mickaël Jérémiaz, médaille d'or 2008 du double en tennis fauteuil, porte-drapeau en 2016 à Rio, en sait quelque chose. Lui qui a vécu quelques galères en 4 Jeux paralympiques.
En 2004, moi quand je vais à mes premiers Jeux, le village n'était pas terminé. On arrive à Pékin en 2008, alors là tout est terminé depuis très longtemps, on a eu des conditions plutôt optimales, sauf que le village était gigantesque. Alors en fauteuil roulant, finalement, c'est pas le plus compliqué parce que ça roule. Mais quand vous êtes amputé d'une jambe avec vos prothèses, quand vous avez des vrais problèmes de mobilité, ben en fait, pour certains, c'était vraiment compliqué. Donc on s'est retrouvé à devoir prendre des bus. Vous n'avez pas envie dans un village de prendre des bus. Vous avez envie d'être ben, comme chez vous. Voilà, c'est la notion de village. On n'est pas dans une ville. À Pékin, on était comme dans une ville. Au Jeu de Rio, le village était accessible. Sauf que quand on sortait de notre appartement, vous sortez, vous avez une rampe qui est quand même assez pentue, extrêmement longue, et quand vous devez remonter après un dîner ou après une épreuve ou avant une épreuve, vous n'avez pas du tout envie de faire un effort physique. Et pour aller au restaurant, vous devez traverser un petit parc. Alors le parc super, là pour le coup vraiment très sympa, sauf que c'était un parc en terre. Et donc dès qu'il a plu, et ben en fait on se retrouvait à être comme des cons parce qu'en fauteuil, ben, littéralement on s'embourbait. Et là à ce moment-là, ce qui manque, c'est peut-être un tout petit peu de bon sens. C'est pas une question d'accessibilité, effectivement, c'était aux normes. Et nous aujourd'hui notre combat, c'est qu'on ne soit plus dans des normes, mais qu'on diffuse un peu plus de bon sens.
Lieu de vie pour 17 000 personnes durant la quinzaine olympique, le village est à l'instar du projet global, une composante importante de la vision sur le long terme, puisqu'il serait reconverti après les JO en éco-quartier. Petite promenade avec son concepteur, l'architecte et urbaniste Dominique Perrault.
Ce que nous cherchons à mettre en évidence, c'est une géographie, c'est-à-dire l'apparition d'un paysage qui va conduire des transports en commun avec le hub de Pleyel jusqu'au bord de la Seine. Nous organisons une espèce de cité-jardin, finalement. Ce que nous allons faire également, c'est que nous allons réaliser un sunken garden, c'est-à-dire tous les toits seront plantés et utilisés. C'est aussi une forme de durabilité, je dirais, non négligeable. et que Paris Intramuros n'offre pas. Car Paris Intramuros, ce sont des toitures en zinc, c'est l'architecture du Paris du 19e siècle. Ici, nous avons cette liberté qui nous est offerte, c'est-à-dire de créer sur le toit un ensemble de terrasses, de jardins, en fait une ville qui est suspendue au-dessus de la ville elle-même.
Autre lieu emblématique, le Stade de France, une enceinte qui résonne encore de la liesse populaire lors de la victoire de l'équipe de France de football au Mondial 98 et des médailles d'or de l'athlétisme tricolore au championnat du monde en 2003. Non loin de là, les experts du CIO ont dû se contenter d'imaginer le centre aquatique, car c'est l'autre grand site n'ayant pas dépassé le stade de projet. Relié au Stade de France par une passerelle, ce bassin est un peu l'Arlésienne de la région Île-de-France, désiré depuis des années, mais toujours invisible, faute d'argent et de volonté politique, un manque à combler d'urgence pour Alain Bernard, champion olympique du 100 mètres nage libre en 2008.
Il y a besoin de ce centre nautique pour l'apprentissage de la natation. À Saint-Denis et à Paris, sur l'ensemble du territoire, on a un parc de piscine qui est extrêmement vieillissant. C'est aussi un petit signal d'alerte pour mobiliser un petit peu l'opinion publique. Donc j'ose espérer qu'avec l'obtention justement de ces Jeux, on ait un grand équipement. Et vraiment, pour sensibiliser les gens, il y a encore des jeunes qui ne peuvent pas apprendre à nager aujourd'hui dans le cadre de l'éducation nationale. Donc ça, c'est tout simplement scandaleux parce que c'est un droit qu'ils ont et que l'éducation nationale doit leur proposer.
S'il est bien un territoire qui espère beaucoup de l'attribution des Jeux, c'est bien la Seine-Saint-Denis, un département en pleine transformation urbaine et principal bénéficiaire d'un vaste plan de rénovation des transports en commun lancé indépendamment de la candidature. Mais il reste encore le moins développé de l'Île-de-France et les Jeux donneraient un énorme coup d'accélérateur à l'amélioration des conditions de vie d'une population encore trop défavorisée. Stéphane Troussel, président du conseil départemental.
On a le revenu moyen par habitant le plus faible de l'Île-de-France. Plus de 100 000 allocataires du RSA en Seine-Saint-Denis. Nous avons aussi la population à la moyenne d'âge la plus faible, avec une part des moins de 30 ans très élevée en Seine-Saint-Denis. Donc c'est autant de caractéristiques qui à la fois montrent les besoins pour lutter contre les inégalités, mais aussi les besoins en termes d'avenir. C'est aussi une question d'image pour la Seine-Saint-Denis. Et en dépit des efforts, en dépit des transformations autour du Stade de France, la Seine-Saint-Denis continue d'avoir un problème d'attractivité et d'image. Et donc, les Jeux Olympiques à Paris en 2024, c'est l'événement qui mobilise le plus grand nombre de sportifs, de spectateurs. Et donc oui, pour nous, c'est important.
Le 9-3, comme on le surnomme familièrement, c'est aussi une mosaïque de 87 nationalités différentes et un vivier de talents qui ne demande qu'à se développer à travers les Jeux, pour peu qu'on lui en donne le goût et les moyens, comme essaie de le faire Sarah Ouramoun. À 35 ans, la vice-championne olympique de boxe à Rio, désormais retraitée des rings, intervient beaucoup dans le milieu associatif local. Arrivée à Aubervilliers à l'âge de 10 ans, nommée en mars dernier déléguée générale du gouvernement pour la Seine-Saint-Denis, elle n'a pas attendu l'attribution des JO pour sensibiliser la jeunesse à l'intérêt du projet.
On a déjà commencé à travailler en allant dans les écoles, en proposant des initiations, en parlant des valeurs de l'olympisme. Et l'idée, c'est aussi de faire en sorte que la population fasse beaucoup plus de sport. Et pour ça, je suis en train de développer un incubateur d'associations sportives. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner les petites associations à monter en compétences, à développer leur modèle économique, à mettre en place des outils au niveau du digital. Et tout ça, c'est grâce à la candidature. C'est vrai que ça a impulsé une bonne dynamique sur le département et au-delà de tout ce que ça peut apporter, c'est aussi de créer des ambitions. Moi, quand je vais dans les collèges là, partager mon expérience, je me rends compte que les jeunes manquent de rêve et d'envie. Certains rêvent d'être un grand sportif, d'autres veulent juste participer à cette belle fête. On leur dit que c'est possible, les portes sont ouvertes et surtout l'idée c'est de se faire plaisir, de trouver sa voie et de s'engager pleinement.
La candidature de Paris 2024 est vraiment très importante pour la France, pour notre pays. On a besoin de partager quelque chose et de permettre que le peuple français se fédère par rapport à une manifestation sportive. On est tous avec vous derrière Paris 2024.
Je soutiens Paris 2024.
Laurent Blanc, Zinedine Zidane, mais aussi le basketteur Tony Parker, le judoka Teddy Riner ou le couple en or de la boxe aux Jeux de Rio, Tony Yoka et Estelle Mosselli, en tout plus de 70 sportifs en activité ou retraités, s'engagent eux aussi de façon visible dans les opérations de promotion de la candidature, beaucoup plus que lors de la campagne pour 2012 où ils semblaient trop en arrière-plan. Si beaucoup auront pris leur retraite dans 7 ans, l'espoir de voir se dérouler les Jeux dans leur pays est une formidable motivation, et pas seulement pour les athlètes, estime la footballeuse. Leur agent.
Je pense que ce serait une super opportunité. Les gens me disent oui, pour les athlètes, c'est votre projet à vous. Non, demain je ne serai plus athlète, je sais, en 2024, j'aurai arrêté. Je me dis que c'est une belle opportunité. Si demain j'ai des enfants, moi je me dis que c'est juste génial. Parce que je sais que ça rassemble des peuples. Je sais que le football permet de rendre les gens heureux. Et si je suis venue sur le terrain, c'est pour rendre les gens heureux. Moi, je n'ai pas des millions pour sauver la planète. Mais je sais que parfois, lorsque je suis sur le terrain, bah, si je peux rendre les gens heureux, bah ouais, on le fait. Et ça, ça n'a pas de prix. Et je sais que les Jeux Olympiques, au lieu de parler d'argent, ce que ça peut apporter à un peuple, je sais que ça peut rendre les gens heureux.
Des Jeux profitables au-delà du monde du sport, le CIO y est plus que jamais sensible. Et Paris 2024, n'oublions pas de s'associer à des projets en lien avec les grandes thématiques contemporaines, comme le respect de l'environnement ou les projets liés à l'économie solidaire. Autant d'initiatives compatibles avec cet héritage des Jeux encouragé par les hautes instances du mouvement olympique. Mais alors que l'échéance de l'attribution arrive désormais à grands pas, Paris sait bien qu'une politique sociale vertueuse, un dossier technique parfait et des épreuves dans des paysages de cartes postales ne suffiront pas. Parler à tous les futurs votants, les écouter un à un, cerner leurs attentes et les persuader que le CIO sortira gagnant avec le choix de la capitale française, un travail de l'ombre qui doit surtout éviter de heurter les sensibilités des gardiens du temple olympique, surtout s'ils décident de changer les règles du jeu et d'entériner en juillet prochain le principe d'une double attribution pour 2024 et 2028, afin de ne décevoir aucun des deux concurrents qui n'auraient alors plus l'intention de retenter leur chance. Officiellement, Paris refuse de voir plus loin que l'échéance de départ, mais pour Armand de Rendinger, consultant international spécialiste de l'olympisme, refuser d'emblée d'attendre 4 ans de plus est un mauvais calcul.
Le discours qui était celui de Paris d'hier 2024, sinon rien et plus jamais, n'était pas bon, a été très mal ressenti. L'argument technique et politique qui consiste à dire on n'aura plus les terrains, les contrats qu'on aura passés pour 2024, on les aura pour 2028, le CIO ne le comprenne pas ça. Alors pour une histoire de 4 ans de terrain qui serait préempté ou pas préempté, vous ne vous présenterez pas? Non, ça ne tient pas debout. Non, ce qu'il faut dire debout, c'est dire que c'est 2024, parce que pour Paris, ça représente beaucoup de choses dans son programme de développement et vis-à-vis de sa jeunesse.
Mais les athlètes accepteraient-ils une nouvelle donne? Alors que la commission d'évaluation parcourait les sites, Teddy Riner, co-président de la commission des athlètes de la candidature, ne pensait qu'à 2024 et ne concevait pas de paix.
Nous, on aime la compétition, ça serait un échec si on ramenait pas cette candidature, parce qu'on y a passé du temps, on y a mis du cœur, on y a mis de la sueur, de la réflexion. Donc vraiment, ça nous tient à cœur d'aller au bout de ce projet et de ramener ça voilà, à notre capitale, à notre pays, parce que c'est pas juste les sportifs qui sont touchés, c'est vraiment tout le peuple, parce que les Jeux, quand on regarde bien, c'est plein d'émotions qui sortent et qu'on retient de ces Jeux-là. Et nous, c'est ce qu'on veut donner.
Quelle que soit l'issue de la campagne, Paris 2024 aura déjà permis à Tony Estanguet, appelé à prendre seul la tête du comité d'organisation des Jeux en cas de désignation, de mieux appréhender ce monde feutré qu'est le CIO, d'en connaître ses codes, ses mœurs et ses hommes d'influence. Comme Teddy Riner, l'ancien CIiste avoue également revivre les sensations d'une compétition, la préparation en amont, le travail en équipe, la quête du détail qui fera la différence et cette excitation d'un concurrent à l'approche du dénouement.
Moi je me régale, voilà, je ressens la même adrénaline, je ressens la même pression quelque part que quand j'étais athlète. Je sens qu'on a tout pour gagner quand j'étais athlète, et en même temps je sens que rien n'est fait. Donc il faut continuer à se battre, il faut continuer à progresser, à affûter ses arguments pour encore une fois être le plus percutant et le plus convaincant possible. Et je mets toute mon énergie là-dedans. Je suis tout le temps dans l'auto-évaluation, dans voilà, j'ai dit ça, la prochaine fois il faut peut-être que je le dise de manière un peu différente pour être un peu meilleur. Et ouais, je fonctionne comme ça. J'ai envie d'apprendre grâce à cette aventure. Voilà, ça m'a pas trop mal réussi jusqu'à présent et je sais que je peux encore faire mieux d'ici demain.
À Lima, le CIO n'aura peut-être qu'à valider un scénario élaboré d'avance, une histoire à la fin heureuse, ficelée en coulisses, où Paris et Los Angeles sortiraient de la bataille la tête haute, quoi qu'il arrive. Mais d'ici là, la France du sport, celle qui a frissonné au fil des décennies devant les exploits de Jean-François Lamour, Marie-Josée Pérec, Laura Flessel, David Douillet ou Laure Manoudou, continue de préparer avec enthousiasme ses invitations à la jeunesse du monde. Ne manque plus que la bonne date sur les faire-part. 2024, Paris se prend au jeu. Un grand reportage de Christophe Direnzian, réalisation Eva Moschinski.
Notre ville, son esprit et sa passion. C'est pour partager l'idéal de dépassement porté par les Jeux. Et la vision d'un futur meilleur. Venez partager. Paris 2024.